Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. L'Europe, justement, on en parle ce soir dans le débat du jour. L'Europe que semble regarder de plus en plus près le Royaume-Uni.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et pourtant, la rupture est consommée entre les deux parties. 31 janvier 2020, souvenez-vous, le Royaume-Uni qui officiellement quitte l'Union européenne. Oui, mais 5 ans après, eh bien, le contexte international n'est plus le même. La guerre en Ukraine et le désengagement américain obligent l'Europe à organiser sa propre sécurité. Et le Royaume-Uni fait partie de l'équation et le fait savoir. Ainsi, ce mois-ci, eh bien, s'est tenu en Angleterre le premier sommet bilatéral depuis le Brexit, sommet surnommé « Reset » par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Les mots ont un sens, on pourrait traduire cela par « réinitialisation des relations ». Notre question ce soir, sortie par la porte, est-ce que le Royaume-Uni revient par la fenêtre en Europe ? Jusqu'où le rapprochement peut-il se faire? Quelles conséquences? Et peut-on imaginer un jour un retour de Londres dans l'union douanière? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Catherine Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Face à vous, Patrick Martin-Jeunier, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Et notre troisième invité est en ligne avec nous ce soir, Thibaut Arroy, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Je vais commencer justement avec vous, Thibaut Arroy, pour parler spécifiquement du Royaume-Uni actuellement. Comment le pays se porte-t-il justement 5 ans après ce Brexit? Est-ce que Londres prospère économiquement ou est-ce que le Brexit plombe le Royaume-Uni? Où en est-on aujourd'hui?
Alors c'est toujours difficile d'attribuer au Brexit l'état de l'économie britannique actuelle. Alors c'est vrai que c'est une économie qui est chancelante, qui a subi de nombreuses attaques, qui voilà, c'est un pays qui économiquement ne va pas très bien. Mais voilà, c'est pas seulement le Brexit, puisque depuis 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu notamment la crise du Covid, et donc c'est toujours difficile de faire la part des choses. La crise du Covid et puis la guerre en Ukraine qui a eu des conséquences aussi sur les économies mondiales et le Royaume-Uni a subi les conséquences aussi de cette crise-là. Donc il y a en fait une multiplicité de crises et c'est très difficile d'identifier ce qui est dû véritablement au Brexit et ce qui est dû à d'autres facteurs et qui touchent le Royaume-Uni comme d'autres États. Néanmoins, c'est sûr que le Royaume-Uni n'a pas pu s'asseoir sur le soutien d'autres États européens, n'a pas pu profiter d'une relance économique à l'échelle européenne, puisqu'il en était sorti au moment où il y a eu ces autres crises qui se sont accumulées.
Et justement, comment le Royaume-Uni compense, entre guillemets, cette perte-là? Est-ce que le pays tisse d'autres liens ailleurs? Où et quel résultat?
Alors, ça a été toute l'annonce, l'effet d'annonce suite au Brexit, notamment par le gouvernement conservateur de Boris Johnson, qui disait que puisque le Royaume-Uni était sorti de l'Union européenne, maintenant il avait la possibilité de signer d'autres accords économiques ailleurs dans le monde. Et on a vu un rapprochement, notamment avec les États d'Asie du Sud-Est aussi, pour essayer de tisser de nouveaux liens avec d'autres économies ailleurs dans le monde. Sauf que, en réalité, pour le moment, soit ce sont des accords qui n'ajoutent pas grand-chose au PIB britannique, soit qui reproduisent en réalité la situation dont le Royaume-Uni profitait en tant que membre de l'Union européenne. C'est-à-dire que les termes des accords signés sont à peu près les mêmes que ceux qui étaient signés entre l'Union européenne et ces États-là. Donc il n'y a pas eu de grande avancée. Récemment, il y a eu tout de même un petit changement avec un accord assez limité, mais quand même important, avec les États-Unis. Et là, c'est vrai qu'on peut voir du coup un changement dans l'attitude britannique, avec la volonté de signer de nouveaux accords et d'obtenir des conditions un petit peu différentes de celles du reste du monde. Mais somme toute, ça reste assez limité par rapport aux enjeux économiques pour le pays.
Est-ce que l'alliance AUKUS aujourd'hui, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, elle pèse?
Alors c'est une alliance qui est surtout une alliance de sécurité et pas tellement une alliance économique. Ouais. Et donc c'est vrai que ça peut montrer la proximité entre différents États, en particulier ces trois États, mais ça n'a pas de poids dans le changement, l'économie britannique.
Ouais, bien sûr.
Mais ça montre néanmoins qu'il y a une certaine proximité au niveau des intérêts de sécurité. C'est d'abord les États-Unis et l'Australie qui ont été à la manœuvre, hein, mais le Royaume-Uni est venu s'ajouter à cette alliance tripartite au détriment d'autres États, et en particulier de la France, on s'en souvient.
Et que le Royaume-Uni, évidemment, a du ressort. Patrick Martin-Jeunier, vous qui êtes spécialiste des questions européennes, quel regard vous avez sur le Royaume-Uni aujourd'hui, 5 ans après le Brexit ?
Écoutez, pour être tout à fait objectif, il est vrai que le Brexit n'a pas contribué au bien-être économique du Royaume-Uni, on le voit aujourd'hui, mais en même temps, ça n'a pas toujours été la catastrophe annoncée en termes de croissance. Madame Mathieu peut-être pourra en parler. On avait annoncé l'écroulement de l'économie du Royaume-Uni. On s'aperçoit ces dernières années qu'en réalité, l'économie britannique a un peu suivi les va-et-vient des économies européennes avec la crise financière, la crise du Covid. En réalité, le Royaume-Uni ne s'est pas écroulé, même si certains vous diront qu'en 2023-2024, les exportations vers l'Union européenne ont baissé d'environ 20%. Globalement, de 2019 à maintenant, les exportations vers l'Union européenne ont baissé de 12%. Il y a aussi une baisse des importations au Royaume-Uni qui a contribué à l'inflation, mais ça n'a pas été, on va dire, l'écroulement qui avait été annoncé de l'économie britannique. Il se porte même plutôt mieux, notamment en termes d'emploi, puisqu'en réalité, en termes d'immigration, ils ont été obligés de recruter des migrants extérieurs à l'Union européenne. Ils en ont bénéficié aussi. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, ils n'ont pas bénéficié. Ça n'a pas été l'espérance annoncée. Ils ont dû également verser de l'argent en compensation à l'Union européenne. Mais moi, qui vais régulièrement au Royaume-Uni, je n'ai pas eu la sensation que ce pays était en mauvaise situation, même si le prix des produits de consommation est plus important, évidemment, puisqu'il y a une augmentation des taxes. Et c'est l'objet, précisément, peut-être qu'on en reparlera, de cet accord avec l'Union européenne qui vient d'être conclu.
Évidemment, on va l'évoquer. Catherine Mathieu, justement, votre œil d'économiste... Patrick Martin-Jeunier disait que le Royaume-Uni ne s'est pas écroulé 5 ans après le Brexit, c'est surprenant. Oui.
De mon point de vue, ça n'est pas surprenant. Mais il est vrai qu'avant que le référendum ait lieu en juin 2016, il y avait de nombreuses analyses qui étaient produites, notamment par le gouvernement britannique et par les grandes institutions internationales, le Fonds monétaire international, l'OCDE, par exemple, qui annonçaient qu'il y aurait une forte chute d'activité au Royaume-Uni s'il décidait de quitter l'Union européenne. Mais il faut bien voir que ce Brexit a mis du temps à se réaliser. Hein. En 2016, c'était le référendum. En 2020, comme vous l'avez rappelé en introduction, janvier 2020, le Royaume-Uni quittait les institutions de l'Union européenne, mais il est resté dans le marché unique jusqu'à la fin de l'année. Et pendant tous ces mois de 2020, il y a eu une discussion sur la nouvelle relation qu'il y aurait en termes économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui a abouti à un accord de coopération et de commerce entre les deux pays. Donc finalement,
comment on peut le définir, cette relation justement aujourd'hui, cet accord, sur quoi il porte
Alors cet accord, il a défini précisément les relations commerciales et il a permis en particulier qu'il n'y ait pas de droits de douane qui s'appliquent dans les échanges de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, une fois que le Royaume-Uni aurait quitté le marché unique. Donc, on a mis 11 mois à négocier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ces points-là. Et vraiment, in extremis, la veille de Noël 2020, il y a eu cet accord qui a donc assuré qu'il n'y aurait pas de droits de douane, pas de quotas qui limiterait les échanges de marchandises entre les deux pays, et donc qu'on essayait de maintenir au mieux les échanges commerciaux entre les deux pays, avec du côté britannique un certain nombre de demandes qui étaient de pouvoir s'éloigner de façon possible des normes de l'Union européenne, mais du côté de l'Union européenne, on disait « mais vous ne pourrez pas vous éloigner en abaissant vos normes, il faudra que vous gardiez au moins les mêmes normes que l'Union européenne si vous voulez continuer à vendre dans l'Union européenne ». Donc en fait, il y a 1200 pages qui décrivent précisément toutes ces relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et donc qui sont en place depuis la sortie du Royaume-Uni du marché unique, donc depuis 2021. Et aujourd'hui, on peut effectivement difficilement dire qu'il y a eu une forte chute de l'activité au Royaume-Uni due au Brexit. Si on compare par exemple la situation de l'économie britannique à la situation de l'économie française, on est à peu près dans la même situation en termes de niveau d'activité depuis le début du choc Covid. Hein. Comme l'a rappelé Thibault un peu plus tôt, on a eu le choc Covid, on a la guerre en Ukraine qui a conduit à une forte hausse des prix de l'énergie qui a contribué à beaucoup commenter l'inflation au Royaume-Uni en particulier, parce que les Britanniques n'ont pas mis en place de bouclier tarifaire lorsqu'il y a eu cette hausse des prix de l'énergie. Mmh. Donc il y a un certain nombre d'effets qui ont freiné l'activité britannique à ce jour.
Donc on ne va pas développer la relation spéciale qui unit le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais en tout cas on comprend bien que le Royaume-Uni n'a pas la relation que n'importe quel pays tiers a avec l'Union européenne. Du coup, j'ai envie de poser la question, Patrick Martin-Jeunier, c'est tout bon pour le Royaume-Uni cette relation? C'est-à-dire qu'en gros, il bénéficie davantage qu'un pays tiers ne bénéficie pas, et pour autant il ne subit pas la lourdeur de la réglementation européenne, des normes qui pèsent sur les pays membres.
Oui, mais il faut faire attention. D'abord, ça s'est quand même très mal passé avec l'Irlande du Nord, parce que Boris Johnson avait dit qu'il y aurait, enfin, l'accord conclu avec l'Union européenne, c'était qu'il devait y avoir un contrôle dans la mer d'Irlande du Nord pour les marchandises qui partaient d'Angleterre qui arrivaient à Belfast. Mais c'était tellement lourd en termes d'entreprise, tellement lourd en termes de bureaucratie, qu'un récent accord a fait qu'en réalité, maintenant, il suffit de dire qu'un produit est destiné uniquement à l'Irlande du Nord et ne passe pas dans l'Union européenne par la République d'Irlande pour s'affranchir finalement de tous les contrôles.
Mais finalement, c'est une relation un peu dominant-dominée. Le Royaume-Uni, l'Union européenne a trop besoin du Royaume-Uni.
Mais il y a une interdépendance réciproque. Ouais. Les économies sont toutes les deux très liées. Mmh. Et le Royaume-Uni reste un des principaux partenaires, de la même façon que l'Union européenne reste encore, même si c'est moindre, le principal partenaire du Royaume-Uni. Par conséquent, nous sommes extrêmement liés sur le plan économique. Et oui, évidemment qu'on a vu, je me rappelle, la première ministre Theresa May était allée au Japon, en Asie du Sud-Est, partout, en disant on va conclure des accords de libre-échange. Mais bien évidemment que ça n'a pas compensé les pertes qui étaient celles des relations. Et aujourd'hui, eh bien, la situation de Keir Starmer, le premier ministre britannique, c'est de dire on va essayer d'être plus pragmatique et de resserrer les liens avec l'Union européenne, parce que c'est incontournable.
Et alors justement, comment vous, Patrick Martin Jeunier, spécialiste des questions européennes, vous voyez ce sommet bilatéral que j'évoquais au début de cette émission, qui s'est donc tenu le 19 mai dernier, premier sommet de ce type depuis le Brexit. Plusieurs bases ont été jetées qui sont loin d'être anodines. Oui. Des bases pour que le Royaume-Uni participe à des programmes européens d'achat militaire.
Oui.
Et puis, il y a une déclaration d'intention qui a été signée, qui énumère les sujets qui vont être négociés dans les mois à venir. Donc, c'est une première pierre dans un grand chantier. On peut citer mobilité des jeunes, coopération énergétique, reconnaissance des qualifications professionnelles, la régulation sanitaire, les échanges de produits alimentaires et la pêche.
Oui.
Là, je pose la question que j'ai posée au début de cette émission. Le Royaume-Uni est sorti par la porte avec le Brexit. Il revient en Europe par la fenêtre ?
Par la lucarne, on peut dire, ou par le sous-sol.
Vous voyez comme ça ?
Oui, je le vois comme ça. Mais les Britanniques, j'aime beaucoup les Britanniques, ils sont très pragmatiques, ils sont très, je veux dire, en termes de négociation, ils sont très forts. Mais ils se sont aperçus qu'effectivement, il fallait reprendre ce que Michel Barnier a appelé le cherry picking, c'est-à-dire prendre le meilleur de ce qu'il y a dans l'Union européenne. Vous avez parlé d'Erasmus+. On a bien vu que les jeunes, les universités, c'était terrible pour eux de ne plus avoir de jeunes qui viennent dans les universités britanniques. Ils vont avoir accès au marché de l'électricité de l'Union européenne. Et donc, même chose, ils vont pouvoir avoir accès dans les aéroports, au fil d'attente des ressortissants de l'Union européenne et non plus extérieurs à l'Union européenne. Donc, on voit bien qu'ils vont bénéficier de tout cela également. En contrepartie, l'Union européenne va avoir un certain nombre d'avantages. Mais comme vous l'avez dit, attention, c'est une intention, c'est une déclaration d'accord. Il va falloir négocier dans les 6 mois qui viennent.
Voilà, moi,
j'ai beaucoup écouté la conférence de presse. Je l'ai encore écouté hier entre Keir Starmer et les autorités européennes. Monsieur Costa pour le Conseil européen, Madame Ursula von der Leyen pour la Commission européenne. C'est quelque chose qui doit être négocié. Et qu'a dit Keir Starmer, le Premier ministre ? Il a dit, je défends l'intérêt national du Royaume-Uni. J'ai négocié avec l'Union européenne de la même façon que j'ai négocié avec l'Inde et négocié avec les États-Unis d'Amérique.
Catherine Mathieu, que reste-t-il du Brexit ? Parce que, par exemple, justement, par rapport à ce qui s'est passé le 19 mai dernier, la suppression de barrières commerciales pour les denrées alimentaires a été décidée. Donc ça veut dire que Londres va régulièrement s'aligner sur les nouvelles normes de Bruxelles.
Oui, donc là, il s'agit de barrières qu'on appelle dans notre jargon d'économiste non tarifaires. C'est le fait qu'il y ait des normes à respecter, des réglementations qui sont particulièrement strictes, et on le comprend en matière alimentaire. Et donc là, les Britanniques ont négocié un accord avec l'Union européenne pour faciliter les échanges agricoles, alimentaires et en particulier dans le domaine de la pêche. Donc ils se rapprochent de l'Union européenne, ils acceptent de valider les normes de l'Union européenne. Donc ça, c'est un changement important par rapport au Brexit. D'ailleurs, les Brexiteurs ont beaucoup reproché à Keir Starmer d'avoir signé sur ce point. Mais il reste beaucoup de choses du Brexit aujourd'hui. Par exemple, sur la liberté de circulation des travailleurs, les Britanniques restent opposés à cette liberté de circulation des travailleurs entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et ça, c'est un point sur lequel la Commission européenne essaye de faire avancer des négociations, en particulier pour les jeunes. Donc on a parlé d'Erasmus+, et pour les jeunes travailleurs de l'Union européenne qui souhaiteraient aller travailler au Royaume-Uni. Mais du côté du Royaume-Uni, on reste très en retrait sur ces points-là. Bon, ça a été un des éléments très importants lors du vote du Brexit, cette liberté de circulation des travailleurs. Et Keir Starmer, même s'il avait voté pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, et c'est le cas des membres de son gouvernement aujourd'hui, c'est très bien que c'est un point d'achoppement dans la société britannique. Il y a eu des élections locales début mai au Royaume-Uni et c'est Nigel Farage qui est leader du parti Réforme UK.
Anti-européen.
Voilà, qui est un Brexiteur pur et dur, première, pourrait-on dire, qui est arrivé en tête. Et les travaillistes sont arrivés en quatrième position dans ces élections. Donc c'est difficile aujourd'hui, pour un gouvernement travailliste qui serait favorable à, et qui est favorable à faciliter les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, d'avancer sur ce point-là. Donc ça, je pense que c'est un point qui va être très très difficile à négocier. Ce que les Brexiteurs ont aussi reproché à Keir Starmer suite à ce sommet du 19 mai, c'est d'avoir accepté de prolonger les droits d'accès aux zones de pêche britanniques pour l'Union européenne pendant 12 ans.
Ouais, et ça, c'était 2038. C'est ça. Les Européens pourront accéder aux eaux britanniques et c'est
dans les mêmes conditions.
Un enjeu crucial pour l'Europe.
C'est un enjeu crucial pour les pêcheurs de l'Union européenne qui ont ces eaux de pêche très poissonneuses à portée de leur bateau. Et puis pour les pêcheurs britanniques, on espérait pouvoir récupérer davantage. Et donc ça, c'est un grand sujet. Et dans les deux cas, en fait, on sait que la pêche, c'est un secteur qui est très, 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 très menacé. Et dans les deux cas, que ce soit au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne, on développe des aides pour aider ce secteur de la pêche.
Mais alors, c'est certain que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, relance, malgré tout ce rapprochement avec l'Union européenne, lui qui a été élu, on le rappelle, il y a un peu moins d'un an, qui est le Premier ministre travailliste, et qui a tourné la page de 14 années de conservateur, au cours desquelles il y a eu cette brouille quand même entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui a suivi le Brexit. Thibaut Arroy, quand Patrick Martin-Jeunier dit que le Royaume-Uni revient par le sous-sol, la lucarne, vers l'Europe, vous partagez cet avis également ? Ou comment est-ce que vous observez ce rapprochement, justement ? Est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il vous étonne ? Jusqu'où peut-il aller, selon vous ?
Alors, je crois que déjà, ce dont il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas une nouveauté qui est liée forcément au gouvernement, au changement de gouvernement et à l'arrivée des travaillistes au pouvoir. En réalité, si on regarde ce qui se passait déjà sous le gouvernement précédent de Rishi Sunak, donc le dernier Premier ministre conservateur avant les élections, ce rapprochement avait déjà été entamé. Il y avait eu la signature de l'accord de Windsor, donc on en a parlé, sur la situation en Irlande du Nord, pour essayer de simplifier, de normaliser la relation, de simplifier les règles en ce qui concerne la frontière entre à la fois la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et puis l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc pour simplifier cette situation, il y a eu l'accord de Windsor en 2023. Il y avait eu un rapprochement petit à petit aussi avec les États européens, c'est-à-dire que les relations avec les 27 se sont réchauffées, et la relation avec la France en particulier s'était réchauffée sous Rishi Sunak. Et donc finalement, Keir Starmer hérite de cette lancée qui avait déjà été entamée, dessinée par le gouvernement précédent, puisque je pense que les Britanniques se rendent bien compte, quelle que soit la couleur politique, le leader conservateur et donc maintenant le travailliste, se rendent compte que l'avenir du Royaume-Uni ne peut pas se dessiner sans une amélioration des relations avec l'Union européenne, pour des raisons économiques évidentes, puisque près de la moitié du commerce s'effectue avec l'Union européenne, puisque c'est là que ça se passe, et puis parce que il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu, vous l'aviez évoqué dans votre introduction. Depuis le Brexit, il y a eu la guerre en Ukraine.
On va l'évoquer.
Le Royaume-Uni s'est rendu compte, voilà, de la proximité aussi des. Enfin, s'est rendu compte. Disons, c'était évident, mais il y a eu une nécessité d'un rapprochement. Aussi par rapport à la sécurité du continent.
Bah, on va évoquer justement dans la deuxième partie du débat cette guerre en Ukraine qui évidemment accélère ce rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui, vous l'avez dit, effectivement n'est pas né sous le Premier ministre actuel Keir Starmer, a été amorcé par son prédécesseur Rishi Sunak, mais il y a évidemment ce premier sommet bilatéral qui a eu lieu ce mois-ci et qui est significatif. Est-ce que le Royaume-Uni revient par la fenêtre après être sorti par la porte? C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. On parle de l'Union européenne, évidemment. Et mes trois invités sont Thibaut Arroy, que l'on entendrait, qui est maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes, et Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Alors Thibaut Arroy a commencé à évoquer évidemment le contexte de la guerre en Ukraine, c'est ce que je disais au début de cette émission, hein. Guerre en Ukraine, des engagements américains, égale l'Europe doit assurer sa sécurité, et à quel point est-ce que, Patrick Martin-Jeunier, le rapprochement du Royaume-Uni vers l'Union européenne, il est indispensable parce que... c'est ce que je disais, le Royaume-Uni fait partie de l'équation pour parvenir à une Europe de la défense.
Ah oui, et pour le coup, le Royaume-Uni n'a jamais quitté cette équation. Il faut faire la différence entre l'aspect économique, social, les relations avec l'Union européenne, et évidemment le partenaire stratégique que constitue le Royaume-Uni dans la sécurité mondiale, la sécurité européenne. Évidemment que la guerre en Ukraine a considérablement rapproché nos pays. N'oublions pas que tant la France que le Royaume-Uni sont membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont des puissances nucléaires, et que de toute façon, ça, sur ce point, le Royaume-Uni n'a jamais quitté cette alliance. Elle fait partie de l'OTAN, donc nous avons toujours été très proches les uns des autres. Mais vous avez raison de dire que le déclenchement de la guerre en Ukraine, plus la pression mise lors du premier mandat de Donald Trump, et encore plus depuis son second mandat, depuis le mois de janvier 2025, va contribuer à intensifier la coopération entre nos deux pays pour la défense. Par exemple, l'augmentation des dépenses consacrées, donc du PIB consacré à la défense nationale. Et évidemment, ce fameux sommet qui a eu lieu avec toutes les puissances qui soutiennent l'Ukraine, notamment le Premier ministre britannique et le chef de l'État français, puis maintenant l'Allemagne, ce voyage qui vient d'être fait donc à Kiev avec le chancelier, le nouveau chancelier, fait qu'effectivement, la coopération militaire est très importante. Et si jamais il devait y avoir ce que Emmanuel Macron a appelé une force de réassurance, c'est-à-dire des militaires qui pourraient aller en Ukraine pour s'assurer de la surveillance d'un cessez-le-feu, il se pourrait que les Britanniques soient présents aux côtés des Français, voire des Allemands, pour assurer le service après-vente d'un éventuel cessez-le-feu.
Il en va de la responsabilité des Britanniques, pour vous, cette présence concernant l'Europe de la défense, parce que sur ce sujet, le Royaume-Uni est extrêmement actif. On peut citer deux initiatives, la coalition des volontaires avec la France pour apporter des garanties sécuritaires à l'Ukraine, et puis le groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, ça c'est avec l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni à sa tête, pour coordonner l'assistance militaire à Kiev.
Oui, parce que le Royaume-Uni reste une puissance nucléaire, encore une fois, une puissance militaire, et donc le rôle qu'elle peut jouer est tout à fait incontournable, notamment pour assurer la paix en Europe. Donc je crois que, de toute façon, le Royaume-Uni ne s'est jamais éloigné de sa responsabilité en matière de défense, mais ne parlons pas de défense européenne qui, selon moi, n'existe pas ou en est à ses balbutiements. Le Royaume-Uni reste bien extérieur à l'Union européenne, mais contribue de manière tout à fait sensible à la sécurité européenne.
Catherine Mathieu, jusqu'où le Royaume-Uni peut participer à cette Europe de la défense en n'étant plus dans l'Union européenne, évidemment? Quand, par exemple, il y a le fait que le Royaume-Uni est évoqué, le fait que le Royaume-Uni participe à des programmes européens d'achat militaire, c'est un enjeu important. C'est le mécanisme Security Action for Europe, c'est 150 milliards d'euros. Oui. Est-ce que le Royaume-Uni a sa place? Parce que c'est un programme, encore une fois, c'est un programme européen. Jusqu'où, en fait, l'Europe de la défense, ou en tout cas, on va pas dire Europe de la défense pour pas froisser Patrick Martin-Jeunier. Ah non, mais... Jusqu'où, en tout cas, mais c'est un autre débat, jusqu'où l'enjeu de la défense justifie l'engagement britannique en Europe?
Je poserais peut-être la question un peu différemment, en rappelant que quand la Russie a commencé sa guerre d'agression vis-à-vis de l'Ukraine, les Britanniques sont les premiers en Europe à avoir réagi et à avoir soutenu l'Ukraine. Il faut se souvenir que Boris Johnson, très tôt, a soutenu l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Et depuis, tous les premiers ministres nombreux britanniques qui se sont succédés, conservateurs jusqu'à aujourd'hui, Keir Starmer, ont suivi la même politique vis-à-vis de l'Ukraine, constante, soutien à l'Ukraine, envoi de soutien militaire, aide à l'Ukraine. Ça, c'est une constante dès le début. Du côté de l'Union européenne, comme on sortait du Brexit et qu'on était tout de même, si je peux être un peu provocatrice, un peu fâchée que les Britanniques aient quitté l'Union européenne, on a d'abord dit que toutes les questions de défense, ça reste une question de l'Union européenne et que les Britanniques sortent de ces discussions.
Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, on voit effectivement que l'Union européenne trouve un intérêt à renouer des liens. Et vous avez parlé tout à l'heure du réchauffement entre la France et le Royaume-Uni. Mais ça, c'est un élément important et je pense fondamental de ce réchauffement du côté français vis-à-vis des Britanniques. C'est de dire, eh oui, nos voisins britanniques, certes, ils ont quitté l'Union européenne, mais ils ont l'arme nucléaire, ils font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies et ils sont tout à fait prêts à intervenir pour cette question de paix en Europe. Et donc, en fait, il y a du côté de l'Union européenne la prise en considération que les Britanniques sont là et sont prêts à aider et à intervenir. Après, sur l'autre point que vous soulevez sur les 150 milliards de dépenses de défense qu'on envisage au niveau de l'Union européenne, pour l'instant, il n'est pas dit que les Britanniques pourront obtenir des contrats.
Ça, ça va renforcer la relation spéciale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Ça reste encore un point de discussion. Et on sait très bien que les Britanniques sont restés proches des États-Unis. Vous avez mentionné tout à l'heure la question de l'AUKUS. Donc, il y a quand même des questions un peu difficiles en termes de défense après à discuter. Mais les Britanniques sont là.
Patrick Martin-Genis, on va en arriver à la question finale de notre débat. Jusqu'où cette relation spéciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne peut-elle aller ? Et est-ce qu'elle peut ne plus être spéciale ? Et donc imaginer un jour un retour, c'est ce que souhaite le patronat britannique, un retour du Royaume-Uni dans l'union douanière. 55%, alors vous évoquiez évidemment Catherine Mathieu, Nigel Farage, le populiste anti-européen qui évidemment aux élections locales a fait un carton, mais 55% des Britanniques, selon le dernier sondage, pensent aujourd'hui que le Brexit était une erreur.
Oui, très certainement, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Rappelez-vous ce bus qui circulait là pendant la campagne, on disait vous allez économiser je ne sais combien de centaines de millions de livres par semaine du fait de ne plus être dans l'Union européenne. Ils ont dû payer d'ailleurs. Mais vous parlez de relations spéciales pour moi. Non, il n'y a jamais eu de relations spéciales avec l'Europe. Il y a des relations spéciales avec les États-Unis.
Ouais, la preuve, c'est une relation spéciale Royaume-Uni-Union européenne aujourd'hui par rapport à tout pays
tiers. Ça reste une relation contrariée.
Je voudrais accélérer parce qu'il nous reste une minute. Est-ce que ça augure un retour du Royaume-Uni dans l'union douanière selon vous ?
Ah non. Il y a un fil rouge. Il n'y aura pas d'union douanière, pas de marché unique et pas de liberté de circulation des mouvements pour les personnes. En revanche, oui, une relation pragmatique avec l'Union européenne, de surcroît, avec un nouvel instrument créé par Emmanuel Macron qui s'appelle la Communauté politique européenne. Il y aura un sommet tous les ans et le Royaume-Uni y sera.
Mais c'est probablement trop tôt pour que le Royaume-Uni envisage de rentrer dans l'Union européenne. Il faudrait que le Royaume-Uni organise un référendum, parce que vraiment c'était très important cette démocratie britannique de dire on organise un référendum pour décider si on reste ou si on sort. Et il y aurait toujours le risque que ce référendum...
Il peut y avoir un nouveau référendum.
Ça pourrait, mais y compris Keir Starmer ne dit pas tant que je serai vivant. Donc bon, on voit bien que l'échéance n'est pas aujourd'hui celle du retour.
Et vous Thibault Arroy, 15 secondes
Oui, alors retour dans l'union douanière, pas pendant ce premier mandat, mais si les travaillistes gagnaient la prochaine élection, s'ils étaient réélus en 2029, alors c'est peut-être une possibilité à envisager qu'il y ait un retour dans l'union douanière. Par contre, le marché unique semble en effet exclu, et alors l'appartenance à l'Union européenne, ça en effet, c'est pas du tout à l'ordre du jour.
Bon, donc c'est pas tout à fait un retour par le sous-sol ou la lucarne.
Pas encore.
En tout cas, ils vont pas rentrer dans la maison.
La lucarne
merci
peut s'élargir.
Merci
Il reste
beaucoup,
nos voisins, les
Patrick
plus proches.
Patrick Martin-Genis, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois, Catherine Mathieu et Thibault Arroy. Et merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat et à Anatole Troidec-Erignac à la réalisation.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et puis 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition. Avec ce soir, Sophie Pouzrade. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
On jette un coup d'œil au programme de ce soir.
Au sommaire, un anniversaire, les 50 ans de la CEDEAO établie le 28 mai 1975. On reviendra sur les cérémonies qui se sont déroulées à Lagos, la capitale nigériane où la CEDEAO a été créée. La journée du dialogue national s'est ouverte ce mercredi matin au Sénégal. Rendez-vous de la vie politique du pays. Elle est axée cette année sur la modernisation du système politique. Jusqu'au 4 juin, les partis et tous les acteurs de la société civile intéressés vont plancher sur l'amélioration du système électoral et de la vie publique en général. On parlera aussi du calvaire des habitants de Diafarabé au Mali, 2 semaines après les exécutions sommaires d'une vingtaine de civils par l'armée malienne. Les djihadistes du Jnim ont instauré un blocus dans le village.
Eh bien merci Sophie Pouzrat, on vous retrouve dans 30 minutes. Pour l'heure, c'est Christophe Paget, il est en régie, il peut rentrer en studio. C'est le grand journal du soir sur RFI.